Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de votre émission Par ici, les sorties consacrées aux diverses manifestations culturelles que nous offre tout au long de l'année l'agglomération chartraine. Pour cette édition de rentrée, nous allons au Musée des Beaux-Arts qui a rouvert ses portes au public cet été. La directrice du musée, Nadine Berthelier, nous présente la nouvelle muséographie et une exposition du peintre et sculpteur Jean-Louis Sauva. Il revient tout d'abord sur la cession du musée à la ville de Chartres par le département en juin dernier, cession pour l'euro symbolique.
Voilà, effectivement, c'est une date clé. Hein. On est en train d'écrire l'histoire du 21e de ce palais qui est vraiment ancestral, sachant qu'effectivement, le 26 juin, le département et la ville de Chartres se sont mis d'accord pour la cession de la propriété auprès de la collectivité de la ville pour l'euro symbolique. Ce qui veut dire que cette fois, l'ensemble, le jardin et à peu près 5000 m2, ben, qui ne sont pas forcément très faciles à utiliser puisque ça va aussi bien des souterrains jusqu'au comble, mais donc c'est quand même un très très bel endroit, un très beau lieu prestigieux, sont propriété de la ville. Donc on va pouvoir véritablement écrire cette histoire aussi avec le souhait de rentrer vraiment dans le 21e avec les enjeux de modernité que ce que représente un musée pour la société aujourd'hui, que l'aspect trop encyclopédique ne satisfait plus et on a beaucoup trop de concurrence à la limite, hein, on peut tout avoir sur internet, donc pourquoi est-ce qu'on irait voir la réalité? Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on se crée une dynamique à la fois plus attractive, mais aussi de singularité et d'identification. C'est pas du nombrilisme, mais de dire que ce qu'on verra à Chartres, on ne le voit nulle part ailleurs, c'est quand même très très intéressant. C'est un potentiel de rayonnement. Je dis toujours qu'on a des pépites, effectivement, mais il faut pouvoir parfois un petit peu les dépoussiérer pour qu'elles puissent se briller de mille feux. Et on a surtout un très bel écrin. Donc c'est vraiment cet enjeu de maintenant vraiment réussir l'adéquation entre une vocation art et architecture et en créant de nom des dénominateurs communs dans un parcours de référence en dégageant trois axes principaux.
Mais commençons par le commencement. On dit musée des Beaux-Arts, mais le véritable nom, c'est palais épiscopal. Enfin, c'était un palais épiscopal. Alors, l'histoire du monument, quand est-ce qu'il est né? Et c'était quoi un palais épiscopal?
Alors, palais épiscopal, palais des évêques. Effectivement, c'était le siège des évêques. Alors là, la petite histoire fait que ça pourrait remonter vraiment au 11e, 12e siècle. Mais bon, on n'a pas énormément de traces visibles. Mais ça sera l'occasion justement d'engager des travaux et de faire des recherches en associant le service archéologique de la ville, donc ça c'est intéressant. Beaucoup d'architectes aussi sont passionnés par toutes les strates et on va dire le côté un peu millefeuille ou palimpseste de la construction de ce bâtiment. Ensuite on identifie davantage la partie médiévale autour de la cour, d'une petite cour intérieure qui là sera très certainement aussi à nouveau visible par rapport au public. On va créer des cheminements pour pouvoir redonner aussi cette vocation de lieu de passage. Depuis la rue du Cardinal Pi vers les jardins de l'évêché, on peut de manière traversante créer des synergies et donner envie aux gens ensuite de s'arrêter, de se dire tiens, palais épiscopal, mais musée aussi. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Ensuite, il y a eu des périodes 16e, 17e, dont on retrouve des fondations, des vestiges. Tout n'est pas forcément visible extérieurement, mais on sait que c'est présent. Et puis après, des campagnes très importantes par de nombreux évêques, entre autres Rosset-Fleury pour la partie début 18e et Godet des Marais également au 18e. Donc ce sont apparemment les deux grands évêques bâtisseurs, si j'ose dire. Certains vestiges de la Renaissance ont disparu, mais pourquoi pas être remis aussi en relation, puisque dans le cadre du trésor de la chapelle Saint-Pierre, les trésors de la cathédrale, la galerie qui est actuellement l'endroit où est la très belle glycine dans les jardins, est en fait ce vestige d'une galerie couverte qui permettait de circuler. Je ne dis pas qu'on va la remettre en circulation, mais on pourra en reparler davantage finalement de ce lien palais épiscopal, lieu des évêques et de la cathédrale. Mais ce palais épiscopal n'est plus du tout le domaine de l'évêché. Nous sommes vraiment investis d'une mission d'un musée du 21e. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il y a cette vocation architecture et art.
Alors, le quartier cathédrale, on le sait, est truffé de souterrains qui reliaient les lieux les uns aux autres. Est-ce que c'est le cas d'ici ?
Oui, effectivement. Oh, oui. c'est bien ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée, en me disant, bon, bah, ce souterrain, n'y allez pas toute seule, on sait pas, vous n'êtes pas sûr de revenir. ou alors c'est volontaire à ce moment-là. On dit, allez-y, allez-y, pour pas que vous reveniez. Non, effectivement, ça descend jusqu'au bord de l'Eure. Effectivement, c'est très profond, c'est passionnant, c'est labyrinthique, mais bon, effectivement, il y a des. Et bon, après, le bâtiment en lui-même est très grand, très vaste. Et puis, ce que je disais, c'est que ces strates de construction d'architecture ont fait qu'effectivement, ça a pu créer beaucoup d'endroits et différences de niveau. Ce qui fait aussi que c'est un palais qui est pour l'instant actuellement difficile d'accès pour les gens à mobilité réduite ou même des poussettes, parce que tout simplement, nous avons des marches un peu partout pour pouvoir rattraper tous les niveaux, puisqu'effectivement, tout n'a pas été refait en même temps. Donc voilà, c'est des petites ruptures de marche et ruptures de niveau à plusieurs endroits.
Quelle ville fascinante que Chartres, hein.
Ah oui, oui. Oui, oui. Ah oui, le labyrinthe n'est pas qu'à la cathédrale, effectivement, où tous les chemins mènent à Chartres. Ça aussi, c'est une manière aussi de plaisanter, mais qui est révélatrice. Oui.
Vous n'êtes pas d'origine chartraine. Vous êtes arrivée il y a quelques années. Est-ce que maintenant, il a une place particulière dans votre cœur, ce musée?
Ah oui, oui, oui. C'est quand même un bâtiment tellement emblématique. Il est passionnant parce que chaque heure de la journée apporte une luminosité. Et ce qui fait que ça permet aussi d'avoir un éclairage, là pour le coup, véritablement sur les œuvres et de revivre différemment. C'est-à-dire que tout ce que l'on connaît, on le revit chaque jour différemment par rapport à un angle de vue ou à une lumière, un prisme différent. C'est comme quand on retourne un kaléidoscope, on voit les choses différentes. Et ça, justement, c'est aussi des choses que je mettrais très en valeur dans le cas des Arts du Feu et de la section Vert, avec des œuvres de Navarre qui, elles, ont été justement conçues comme des pièces qui pouvaient être brillées de mille feux. C'est-à-dire que chaque jour, vous le voyez différemment, parce que ce sont vraiment cette ambition de donner un florilège et multiples visions.
Alors le parcours, donc le comment dire, la muséographie n'est pas encore totalement terminée, elle est en chemin, on va dire, mais déjà le parcours, on peut le faire, on va le faire avec vous. Là, on est en train de marcher, on est en train de se promener, on arrive dans une salle qui est très belle aussi, tout est beau. On pourrait visiter le musée même sans tableau, hein, franchement.
Oui, effectivement, on pourrait le considérer comme un period room. C'est effectivement s'attendre peut-être à voir un évêque débouler et sortir avec sa tenue. Mais donc en effet, l'idée, c'est d'essayer de mettre en valeur ce bâtiment, mais qui a été aussi beaucoup beaucoup remanié, donc tout n'est pas forcément d'origine. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, dans une des premières salles, on a voulu justement évoquer le palais, donc l'histoire et de ce lieu, mais également des collections qui peuvent être en connexion avec ce qu'on peut appeler un tableau d'histoire, puisque ça relate un événement de la rencontre du duc et de la duchesse d'Angoulême en décembre 1823, et qui s'est événement qui s'est passé, cette entrevue s'est passée bel et bien au musée de Chartres, quand il était donc palais des évêques à ce moment-là, et ça se tient près de l'entrée. Mais donc, voyez ici, dans la manière dont on l'a disposé, on a vraiment la continuité entre le carrelage. Ben, c'est exactement, voilà, c'est comme si on était, qu'on pouvait rentrer dans l'œuvre. Voilà,
c'est-à-dire que le carrelage qui est sous nos pieds, on le voit aussi dans le tableau. C'est comme si on allait monter, nous aussi. C'est assez extraordinaire d'avoir, c'est une excellente idée d'avoir mis ce très grand tableau ici.
Voilà, il a un côté panoramique. Les personnages pourraient presque sortir de leur tableau, de la toile, comme nous-mêmes, nous pourrions en faire partie. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir avoir ces connexions d'interaction, que le public peut être pris à témoin, et puis d'autant que ça relate un événement important, et puis en présence du maire de l'époque. Donc là aussi, ça peut être remis en synergie par rapport à l'histoire de Chartres et du palais, et également deux pièces importantes, puisque elles étaient présentes au sein du palais des évêques. C'est pas des collections constituées par le musée tant qu'il était à Montesquieu au 19e, puisque le musée date de 1833, enfin l'intention de création d'un musée municipal, c'est au premier tiers du 19e, et à l'hôtel Montesquieu, déjà des agrandissements déjà trop à l'étroit, et ça n'est qu'au début du 20e qu'est l'intention d'intégrer ce palais épiscopal, c'est mis à jour. Mais donc ces deux pièces, dont un très très beau tableau là du 17e, sont des œuvres qui font partie de l'héritage du bâtiment.
C'est dû apparaître à Abraham. Alors, il s'agit de l'école française. C'est quoi? Donc, on connaît le nom de l'artiste? Non, pas du tout.
Non, là, effectivement, il y a une attribution qui a été portée, mais c'est une très, très belle toile qui a été restaurée et qui mérite véritablement, justement, que l'on fasse des recherches un peu plus abouties. Et donc, il provient de cet ancien évêché. Donc, évidemment, une thématique religieuse, mais qui, en même temps, peut toujours nous parler, puisqu'effectivement, d'être à un moment donné lié à quelque chose au-dessus de nous, un côté un peu transcendantal, voilà, comme si on nous parlait d'en haut et on nous interpelle, ben voilà, effectivement, ça peut être aussi la commande de ce nouveau musée, répondre à quelque chose au-dessus de l'aspect terrestre.
La transcendance. Là, il y a une pièce...
Oui.
On va aller se promener, allez-y.
Oui, voilà, peut-être qu'on peut déambuler, dans tant que là, on souhaitait aussi un petit peu, dans ce volet de l'art occidental, hein, puisque dans les axes qui se dessinent dans le projet culturel et scientifique, on détermine un parcours de référence autour de trois axes, l'art occidental, que nous sommes en train de découvrir, et puis ensuite on verra l'art extra-européen et la section art du feu. Et donc là, quand on évoque les arts du feu, en général, le monde ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Il s'agit de transformations chimiques à partir d'argile ou de silice ou autre, et qui, une fois que c'est cuit, permet d'avoir des émaux, de la céramique ou du verre. Et donc là, en l'occurrence, c'est la salle des émaux de Léonard Limousin, donc dont on en a vraiment un très très beau florilège de ces 12 apôtres, cette commande de François Ier. D'ailleurs, j'invite vraiment les personnes à regarder en détail toutes ces petites annotations, les F qui figurent dans chacune de ces plaques, qui pour l'insigne de François Ier. En dessous, au niveau du cartouche, vous avez la salamandre, même là si ça ressemble un peu à un dragon, mais qui était l'emblème de François Ier, qui disait qu'il pouvait, ça pouvait traverser le feu sans mourir et sans souffrir. Dans l'histoire, c'est qu'en fait François Ier est décédé avant de pouvoir recevoir réellement la réalisation de cette commande de Léonard Limousin. C'est Henri II qui les a reçus et qui à ce moment-là choisit de les offrir à Diane et qui au château d'Annette, donc en Eure-et-Loire, et qui en fait après à partir de la saisie révolutionnaire, ces émaux sont arrivés à l'église Saint-Pierre en Valais et puis après pour être mis à l'abri, protégés, déposés au musée, et ça fait vraiment partie, on va dire, de nos précieux, parmi nos plus belles collections, et que là on peut aussi bien intégrer dans un courant de témoignages de la Renaissance, mais aussi vraiment au niveau des arts du feu, à l'instar des autres pièces qui sont réunies ici, avec également un autre de nos chefs-d'œuvre, encore un autre de nos stars, le vase dit de Charlemagne. Je dis bien dit, c'est légendaire, puisqu'en fait Charlemagne était décédé depuis bien avant la création de ce vase. Là aussi, c'est en lien du coup avec la période médiévale, puisque c'est un vase ramené par les croisés de Syrie et qui est monté ensuite plus tard avec la partie orfèvrerie et offert pour l'abbaye de Châteaudun et ses révolutionnaires, et donc déposé à la bibliothèque de Chartres avant que ce soit mis au musée. Et ça fait partie aussi de nos florilèges, de nos plus très très belles pièces historiques, et que j'inclus vraiment aussi dans la section art du feu. En tant que vert.
J'en profite pour vous parler de l'époque révolutionnaire. Est-ce que justement le musée a eu à souffrir de la révolution et des autres périodes historiques, par exemple de la Seconde Guerre mondiale? Il y a eu des bombardements en Chartres. On a l'impression que ça va, il s'en est bien tiré, non? Non.
Non, effectivement. Alors pour la période révolutionnaire, effectivement, il y avait déjà eu des modifications qui avaient déjà été faites. Mais c'est vrai qu'au moment de la signature du bail amphithéotique entre le département et la mairie en 1913, ça ne préjugeait pas finalement que le début des conflits en 1914 a fait que ce bâtiment a servi de casernement et il a énormément souffert. C'est-à-dire que tous les travaux importants de rénovation qui avaient été financés par la mairie de l'époque ont été un peu mis à néant parce que effectivement les militaires n'avaient pas forcément un sens patrimonial très développé. Et donc alors dans les choses qui peuvent être amusantes justement, c'est de retrouver entre autres des graffitis de 1913, 1914, 1918 qui sont dans les murs de la salle à l'italienne.
C'est-à-dire que là où nous sommes, il y avait des soldats étendus sur de la paille avec des canons, etc.
je ne sais pas exactement quel mobilier ils avaient, mais effectivement, voilà. Ouais, ouais. Donc, effectivement, ça a été compliqué. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc du coup, ça n'était pas possible à ce moment-là que le musée puisse réellement prendre possession des lieux. Il a fallu à nouveau retarder un petit peu, pouvoir faire à nouveau des travaux assez conséquents à nouveau. Mais lorsque le musée a voulu ouvrir en 1938, là à nouveau, déclaration de la guerre quelques mois plus tard, le 3 septembre 1939, et du coup, à nouveau, les collections ont été mises à l'abri, ont été déplacées, et ça n'est que finalement qu'en 1948 que vraiment le musée a été inauguré et ouvert durablement, et ce qu'on évoquait tout à l'heure avec effectivement cette date importante du 26 juin 2017, à savoir changement de propriété et bel et bien une affectation au moins pour 30 ans, puisque dans les conditions de cession, on est sûr que ça puisse être un musée pendant quand même de belles décennies.
Plus tard, vous pourrez dire « j'en fus alors
». De nombreuses personnes étaient témoins, effectivement. Il y a eu des selfies, je crois, ce jour-là.
Il y a une croix qui est absolument somptueuse, magnifique ici. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors là, c'est au niveau des techniques, ce sont des émochants levés. Hein, donc ce sont des techniques qui ont été surtout développées au XIIe, XIIIe siècle autour des ateliers de Limoges, hein, et qui ont en fait exporté beaucoup dans différents centres français, mais également jusqu'en Angleterre. Et donc là, c'est effectivement des éléments liturgiques, hein, puisqu'on peut avoir aussi bien une petite pixie, ou bien une navette à encens, des crosses par rapport à des emblèmes religieux. Donc entre autres, une des crosses retrouvée dans une tombe dans l'abbaye de Thiron-Gardé, qui est postérieure quand même à l'abbaye de Thiron-Gardé, est prêtée et déposée en ce moment au Collège Royal à Thiron-Gardé. Et donc là, on a un petit florilège effectivement d'un bel ensemble. Bon, ceci dit, ce sont des pièces qu'on peut voir dans d'autres musées. Voilà, c'est moins, on va dire, c'est le côté moins original et véritablement d'attraction que peuvent recouvrir les émaux ou le vase de Charlemagne. Et vous voyez qu'on a intégré également comme un fil directeur l'exposition de Jean-Louis Sauva. Alors, avec des harmonies de couleurs, hein, donc dans les ensembles de petits coups, vous allez me dire c'est un peu audacieux à côté des apôtres, mais après tout, ça peut être Adam et Ève. Hein. Toutes les possibilités de lecture sont ouvertes. Et puis surtout, c'était aussi par rapport à ces harmonies de couleurs. Et puis comme dans la création, dans l'inspiration de Jean-Louis Sauva, le cheval est vraiment un sujet de prédilection, à la fois sujet et passion et vocation, puisque lui-même est un très très bon cavalier. On a réuni un ensemble comme ça, que l'on peut déterminer un peu comme des chevaux qui sautent, comme si c'était un parcours d'obstacles qui permettent de chevaucher et d'intégrer cette salle de manière un peu ludique, en montant finalement différents médiums, pour là aussi expliquer qu'au niveau technique, comme nous avons aussi des techniques différentes entre les émochants levés et les émaux peints, qui font partie donc des arts du feu, avec la partie médiévale et renaissance, on a différentes techniques, un carton pour élaborer, pour faire une maquette, une première matrice, un plâtre qui lui va servir aussi plus tard à faire le moule, et du moule on pourra tirer un bronze. Donc vous voyez, par exemple, on a deux modèles identiques avec on n'a pas la partie terre ou carton, mais on a la partie plâtre avant d'avoir le tirage. Et le cheval qui saute avec que l'on voit ici, par contre, là, est issu d'un plâtre comme ceux que l'on peut voir à l'entrée du musée.
Ouais. Très bien, merci beaucoup. On va continuer la visite. On ne verra pas tout, bien évidemment, mais on verra ce qu'on voit. Et puis surtout, il s'agit évidemment maintenant pour le public de venir et d'investir ce lieu superbe.
Oui, alors voilà, c'est donc effectivement à la fois difficile simplement oralement de vous décrire un ensemble et dans un temps imparti, mais donc voilà, l'idée c'est que dans ce parcours occidental actuel, on a souhaité surtout rassembler les plus belles pièces, et donc par exemple ici, une pièce essentiellement 17e, 18e, avec des signatures de prestige comme Van Loo, Chardin, Zurbaran, Fragonard, Rigaud, L'Argilière, enfin, et un très très beau meuble également que nous envient de nombreuses collections avec ce secrétaire Gaulle.
Il y a aussi de grandes signatures, hein, donc dans le musée musée des Beaux-Arts de Chartres, qu'il ne faut surtout pas oublier. Nous voilà dans une nouvelle salle avec encore des chevaux de Sauva.
Voilà, des chevaux de Sauva et comme vous dites, des belles signatures. Là, on passe à la salle 19e avec Corot, Daubigny, Troyon, Couture, donc de belles, dans laquelle Jean-Louis Sauva fait concurrence ou entre dans la compétition. Donc là, effectivement, donc on avance en effet au niveau chronologique. De très très beaux tableaux qui invitent aussi à la contemplation, à redécouvrir des paysages, voir les sujets qui ont été véritablement mis à l'honneur au cours du 19e, parce que pendant longtemps c'était plutôt la peinture d'histoire sacrée ou religieuse qui était dans la hiérarchie noble de l'Académie des Beaux-Arts, et c'est essentiellement au 19e, et les peintres que vous voyez là sont ceux qui ont pu ouvrir la voie à l'école de Barbizon puis aux impressionnistes.
Jean-Louis Sauva est heureux d'être parmi ces gens-là.
Ah oui, effectivement, oui, oui. Oui, oui. À la fois dans le lieu, parce qu'il aime énormément ce bâtiment, et puis effectivement lui-même, par sa formation assez classique, enfin classique dans le sens en apprentissage, mais aussi dans son souhait aussi de rester quand même assez figuratif, il est absolument ravi de pouvoir être en fil directeur. Voilà, nous avançons. Donc là, on fait un saut encore dans le temps, puisqu'on est sur la partie du première moitié du XXe siècle, avec une sélection et des très belles présences des tableaux de Vlaminck et Soutine, et également la collection d'art africain de Vlaminck, puisqu'il faisait, à l'instar de Picasso et de Rhin, partie des tout premiers collectionneurs de ce qu'on disait art nègre ou art primitif.
Et Vlaminck était un enfant, enfin pas un enfant de la région, mais il a longtemps vécu...
Oui, à partir des années 20, enfin du 1920, il s'est installé en effet à proximité de Chartres et il y est demeuré jusqu'à son décès à Rueil-la-Gadelière. Et du coup, l'Eure et Loire, la Beauce ont été parmi de nombreux sujets d'inspiration, de prédilection. Et puis, on a la chance aussi que des tableaux ont pu intégrer des collections nationales pour être mis en dépôt à Chartres en souvenir justement de la présence de Maurice de Vlaminck dans le département. Idem par rapport à des tableaux de Soutine. Là, c'est parce qu'en fait, il a rencontré les Castaings lors d'un séjour en Suisse, et les Castaings sont devenus, on va dire, un peu mécènes à l'époque, collectionneurs et mécènes, et l'ont fréquemment invité à Lèves, et donc Soutine a aussi été un Eurélien à son tour, et a souvent peint des escaliers de Chartres ou d'autres sujets, et donc là nous sommes heureux d'avoir en ce moment deux tableaux actuellement exposés.
Très bien, alors il nous reste 2-3 petites minutes, donc c'est peu. Vous avez parlé de mécénat et je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ce mécénat populaire que vous avez mis en place, parce qu'en arrivant au musée, j'ai vu un petit objet avec des pièces et des billets dedans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu mécénat populaire, donc de quoi s'agit-il?
Alors effectivement, initié en 2014 par rapport à un mécénat de restauration pour Métabus, la très grande toile que vous avez pu voir, que l'on doit au pinceau de Léon Cogniet, qu'il avait réalisé pendant qu'il était son séjour à la Villa Médicis à Rome. Donc, fort de ce résultat de mécénat participatif, on a décliné cela sur plusieurs formes, c'est-à-dire que des personnes peuvent nous faire un chèque ou bien payer avec un ticket mécène. Vous savez, c'est dans l'esprit où vous rajoutez une somme en plus du billet d'entrée. Bon, là, il se trouve que nous sommes gratuits, par chance, cette année. Donc du coup, on a plus développé finalement une urne en don libre. C'est un courant anglo-saxon qui se développe de plus en plus en France. Et là, j'apprécie énormément la générosité des personnes, puisque bon, effectivement, depuis 10 jours, vous avez vu qu'effectivement, c'était pas que des petites pièces jaunes. C'est bien mieux. Nous avons entre autres un billet de 50 euros parmi les billets de 5 et 10. Voilà. Donc ça nous permet justement d'engager des actions de mécénat pour nous aider à accompagner des opérations de restauration de tableaux. Ouais.
Il y a des opérations en cours actuellement là ?
Oui, là on va justement, alors parfois c'est pas forcément des choses extrêmement visibles, ça peut être des allègements de vernis ou des restaurations, ça peut-être pas la même ampleur que la restauration fondamentale du tableau Métabus, mais on a aussi beaucoup d'œuvres qui sont dans un très très mauvais état qu'on ne peut pas déplacer en tel quel, donc il va falloir consolider, et donc cette manne, enfin si je veux dire cette participation généreuse permet justement de pouvoir payer des campagnes de restauration, de consolidation.
Sabrine, merci. On va peut-être donner les ouvertures du musée pour les touristes ou les chartrains ou les champs de passage.
Oui, alors nous sommes ouverts du jeudi au dimanche. Du jeudi au samedi, c'est 10h, 12h30, 14h, 18h. Le dimanche, 14h, 18h. Ça, c'est valable pour l'été. Mais dès septembre, et là, nous en sommes très contentes, le musée sera ouvert jusqu'à 20h tous les jeudis. Voilà.
Alors, allez voir, courez au musée, palais épiscopal de Chartres derrière la cathédrale. Merci beaucoup.
Merci.
Supper!